J'ai la chance sur la ligne de recevoir un ancien collègue à TVA Sport, un court passage à TVA Sport, le temps de quelques mois, un an peut-être comme collègue. Six mois de collègue, mais c'est un journaliste que je respecte beaucoup, un gars très drôle, très professionnel. Antoine Deshaies, merci de venir faire ton tour sur la ligne.
Ça fait plaisir, Alexandre, très content d'être ici.
Alors, si on t'invite aujourd'hui, c'est pas pour parler directement du tournoi. Ça, on en parle en masse, mais je veux revenir sur tes années de couverture de tennis. Mais avant, parlant de couverture de tennis, t'arrives tout juste de Tokyo, t'as couvert le tournoi olympique. C'était comment de couvrir le tournoi de tennis olympique?
Alexandre, c'est assez hallucinant. Puis ça me fait rire cette semaine. Plusieurs journalistes à Montréal parlent de la chaleur aux joueurs. Puis les joueurs sont comme, ben, c'était pas si pire à Tokyo, qu'à Tokyo. Mais honnêtement, j'ai jamais vu des conditions comme ça pour couvrir du tennis, là. J'avais une serviette sur la tête, casquette, deux, trois bouteilles d'eau. Puis le premier jour du tournoi, il y avait Leila Fernandez qui jouait en même temps que Dabrowski Fishman sur deux terrains secondaires où il n'y avait aucun ombre disponible pour se rafraîchir. Donc, ça a été particulier. Juste la gestion de la chaleur, ça a été vraiment quelque chose. Je pense que les joueurs aussi ont souffert pas mal. Pas pour rien qu'au milieu du tournoi, on a déplacé les matchs vers la soirée plus que vers la journée parce que c'était vraiment insoutenable. C'était du 32, 33, 34, 35 degrés plus humidité. Donc vraiment, ça a été, au point de vue physique, ça a été très chaud. Au point de vue journalistique, ben écoutez, c'est intéressant. Malheureusement, pour les Canadiens, ça n'a pas été très long. Donc, j'ai pas eu de belles entrevues à faire après les matchs. Puis aux Olympiques, c'est pas des points de presse. Hein. Les athlètes passent en zone mixte, qu'on appelle. Donc, ils viennent devant toi. Tu as le droit à deux, trois questions, des fois une. Donc, ça va assez rapidement. Donc, ça a été, ouais. Disons que j'aurais espéré avoir des meilleures entrevues à faire avec les Canadiens et Canadiennes. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est une belle expérience quand même. On a pu parler aux grandes stars qui étaient là. On a eu Djokovic quelques fois en entrevue, une fois en français, quelques fois en anglais. C'est vraiment agréable. On a presque eu Osaka. Vous savez, Osaka ne donne pas beaucoup d'entrevues. On l'a presque eu. On lui a donné aux Olympiques, on échange beaucoup les pins, les épinglettes. Puis on lui a tendu une épinglette de Radio-Canada CBC. Elle a regardé, elle a accepté. Puis on a dit, on en échange une entrevue. Elle a dit non en souriant. Mais il faut savoir que les athlètes, souvent, c'est l'agent qui préapprouve les entrevues d'abord, donc il va faire les grands réseaux comme NBC, une télé japonaise, puis nous, ben, le jour qu'elle a perdu, on était sur la liste en cas de victoire, donc si elle gagnait, on aurait pu lui parler, Naomi Osaka, mais bon, elle est partie assez rapidement, puis on n'a pas eu l'entrevue, mais disons que c'est une expérience particulière, tu sais, il manquait beaucoup de joueurs, beaucoup de bonnes joueuses, beaucoup de bons joueurs, mais ceux qui étaient là, on sentait vraiment qu'ils voulaient bien faire, puis ça donnait quelques bons matchs, c'est une surface qui était assez lente, donc ça faisait des longs échanges, on a eu quelques très longs matchs à couvrir, mais dans l'ensemble, c'est une couverture que j'ai bien appréciée.
Comment on gère ça? Donne-moi un petit cours, parce que moi, je n'ai jamais fait la couverture olympique, Antoine. Une entrevue de zone mixte. Bon, parce que tu sais, parler à un athlète après un match, en général, on rentre pas trop dans les détails. C'est pas comme s'asseoir avec lui one-on-one, comme on dit. Puis comme l'entrevue est tout juste après le match, je veux pas non plus le mettre dans un coin puis le mettre dans un spot qui serait pas évident. Alors, comment on gère ça, une entrevue de zone mixte?
Ben, ça se passe très rapidement. Souvent, on court du terrain jusqu'à la zone d'entrevue parce que les joueurs, ils vont passer directement après leur match. Des fois, c'est 5, 10, 15 minutes après. Puis souvent, on voit avec l'agent responsable des médias là-bas, on a droit à combien de questions. Des fois, c'est une, des fois, c'est deux, des fois, c'est trois. Disons que la marge d'erreur n'est pas très grande. Donc, on essaie d'avoir un plan de match en tête, d'avoir une, deux questions vraiment prêtes à faire feu. Et souvent, ce n'est pas dans notre langue. Souvent, ce n'est pas en français. Donc, il faut se préparer pour avoir une question qui est claire. À Tokyo, c'est encore plus difficile parce qu'on devait être à 2 mètres de l'athlète. Donc, on avait nos masques, on avait une longue perche pour leur parler. Donc, souvent, l'athlète ne comprenait pas trop bien nos questions. Nous, on comprenait bien ses réponses. Mais donc, ce n'est pas évident. Mais c'est... Après les Jeux, souvent, c'est de l'émotion pure du moment. C'est pas le temps de faire une analyse en long et en large du match. Donc, souvent, c'est les impressions sur la signification de la victoire pour eux. Lorsqu'il y avait, par exemple, un médaillé olympique ou une médaillée, bien, souvent, la question évidente, c'est la médaille représente quoi? Puis ensuite, à partir de la réponse, on peut en relancer une deuxième question qui est intéressante. Mais donc, ça, c'est des fois, c'est un peu frustrant. On a tant à leur demander, puis dans notre tête, on doit éliminer des questions qu'on a, qu'on juge bonnes, mais qu'on doit mettre de côté parce qu'on en a une ou deux seulement, parce qu'il faut savoir qu'on est là, Radio-Canada, CBC, mais on est 30 médias, télévision, ensuite il y a 10 radios, il y a la presse écrite au bout, donc on n'a vraiment pas beaucoup de temps, donc c'est beaucoup d'adrénaline, donc on ne veut pas rater notre question, puis ensuite souvent il faut traduire sur le champ, mais donc c'est un peu frustrant parce qu'il y a tellement de choses qu'on veut leur demander qu'on ne peut pas leur demander, puis des fois il faut aller écouter le point de presse après pour être sûr qu'on ne manque rien. Mais disons que c'est un bon rush d'adrénaline d'avoir si peu de temps pour faire une bonne impression auprès de l'athlète, de notre auditoire qui veut entendre la réponse.
Est-ce que overall, t'as trippé sur l'expérience quand même? Même si d'un point de vue journalistique, on s'entend, c'est plus complexe, puis c'est pas aussi satisfaisant journalistiquement, mais overall, l'expérience, c'est comment?
Bon, c'est sûr, aux Olympiques, on gérait tous les jours, donc c'est sûr que le point de vue journalistique, c'est du défi parce que c'est des longues journées, faut gérer un paquet d'affaires, un paquet d'impondérables. Mais je vous dirais que très honnêtement, j'ai trippé davantage aux épreuves de marche et de marathon que j'ai fait qu'au tennis parce que au tennis, les Olympiques, c'est important pour les joueurs qui sont là, mais on sent pas que c'est l'aboutissement d'une carrière. Donc, l'émotion qu'on a ressentie avec les joueurs, les joueuses, tu sais, lorsque Félix a perdu au premier tour, on sentait bien sûr extrêmement déçu, mais lui, il peut se reprendre la semaine d'après à Washington, à Toronto après, à New York dans 2 semaines. Donc, ce n'est pas la même émotion vive qu'un marcheur, par exemple, qui gagne le bronze au dernier 50 km de l'histoire de la marche des Olympiques, comme la ville de vie, comme j'ai vécu. Je dirais que niveau personnellement, j'ai plus vibré avec les marathoniens, les marcheurs qu'avec les joueurs de tennis. Cela dit, si Félix ou si Leila ou si Gabriela ou Sharon avaient gagné une médaille, je ne suis pas mal sûr que je l'aurais trippé pas mal avec eux. Mais sur le coup, disons que point de vue émotif, c'était assez tranquille de voir ça. C'est sûr que Bencic, lorsqu'il a gagné sa médaille d'or, elle est très contente. Elle rêve même chose. On arrive à le faire sourire, mais on est moins attaché aux athlètes. Puis on sent que pour ceux qui perdent, oui, c'est une déception, mais ce n'est pas la fin du monde comme ce serait le cas, par exemple, dans les autres sports.
Et là, Antoine, je vais te lancer des fleurs, pas juste parce que je te connais, mais je te le dis, puis je pense même pas que je te l'ai déjà dit, mais je vais le faire publiquement. Je pense que tu es un des meilleurs généralistes dans business, comme journaliste sportif. Mais est-ce que je me trompe si je dis que le tennis, ça a quand même une place spéciale pour toi comme fan puis comme journaliste?
Non, c'est sûr, c'est un des sports que je préfère couvrir. Je pense que la raquette, oups, regarde ici derrière moi, en témoigne un peu. C'est un sport que je suis depuis très longtemps. J'ai joué depuis que j'ai 8-9 ans. Donc, c'est sûr que depuis 2019, j'ai eu la chance de couvrir davantage de tennis. Et c'est en ce moment le sport que je couvre le plus, qui m'intéresse davantage. Mais, bon, à part le tennis, ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance en tant que joueur, mais aussi à la Coupe Rogers à l'époque, c'était quand j'avais 10-12 ans, c'était, je pense, Dumoriez qui commanditait ou même Players encore. Je me souviens, entre autres, de l'année 93, j'avais 12 ans. Et puis, chaque année, on y allait avec les gens du tennis de montagne. On organisait les moniteurs du tennis avec des joueurs, des jeunes. On allait donc en voiture à Montréal. On partait de montagne pour aller voir ça. Puis, parfois illégalement, à 8, 9 dans les voitures du moniteur. On ne dirait pas trop fort. Puis, en 93, je me souviens, j'avais croisé Jim Courier après une pratique. Il m'avait lancé une balle. Puis, c'est un souvenir, je l'ai regardé super longtemps. Puis, le lendemain, il avait perdu contre un dénommé Mikael Tennfors, un Suédois qui était classé, je pense, 102 ou 103e mondial. Qui, contre toute attente, avait battu Courier, qui était deuxième mondial, et le Suédois avait gagné le tournoi ensuite par la suite. Donc, il avait causé la grande surprise, puis c'est une des plus grandes surprises, je pense, de l'histoire de la Coupe Rogers. Puis, cette année-là, je me souviens qu'il y a un soir, les gens du tennis de montagne repartaient à la maison. Puis moi, j'avais convaincu mes parents de pouvoir rester là seul, avec mon argent amassé aux fraises. Je m'étais acheté un billet pour le match Michael Chang-André Agassi dans l'ancien stade. Puis à l'époque, Agassi, tout le monde trippait sur lui, c'était la vedette. Puis moi, j'aimais beaucoup les sous-estimés, un peu des underdogs. Donc, je suis un des rares qui applaudissait Michael Chang ce soir-là. Je me souviens, j'avais un billet dans une vieille rangée du vieux stade. Puis il n'y avait personne à côté de moi. Puis j'avais regardé ce match-là. Puis mon père était venu chercher ensuite au tennis. Donc, pour moi, c'est des belles expériences, des beaux souvenirs. Puis en 2019, quand j'étais au US Open pour couvrir Bianca Andreescu, j'avais interviewé Jim Courier, puis je l'avais rappelé qu'en 93, il m'avait donné une balle, puis ensuite, il avait perdu dès le premier tour, dès le troisième tour, je pense, contre Tennfors. Puis lui, il se souvenait d'autre chose, c'est qu'en double, il avait gagné le tournoi avec Mark Knowles cette année-là. Donc, pour moi, c'est un très beau souvenir, puis de lui, de voir que malgré sa défaite hâtive, il gardait un bon souvenir d'année 93, bien, c'est assez intéressant. Mais depuis que je suis tout jeune, le tennis, c'est le sport que j'aime le plus. Je le regardais à la télévision, y aller chaque année, c'est un peu un rituel. Puis, je dirais que quand il va comme partisan, j'ai l'impression qu'on le savoure plus que comme journaliste, parce que le journaliste, on court à gauche, à droite, on voit la moitié du match parce qu'on a un point de presse à faire, on a un direct à la télévision après. Donc, vraiment, m'asseoir dans les gradins pour regarder un match de tennis, ça fait longtemps que j'ai. La dernière fois, je pense que c'était en vacances à Indian Wells, il y a une couple d'années, je suis allé voir des matchs là-bas avec ma copine. Puis, ça me manque un peu de regarder ça en tant que touriste, entre guillemets, non pas en tant que journaliste, mais disons que c'est un sport que j'aime beaucoup.
Ah, t'as tellement raison. Il y a rien de pire qu'un journaliste sur place pas voir un événement en entier, là, et t'as 100% raison. On va revenir sur Indian Wells parce que, semble-t-il, c'est une des plus belles places au monde pour regarder du tennis. Mais je veux revenir sur tes souvenirs de couverture de tennis. C'est quoi l'événement qui t'a le plus marqué? Bon, ça peut être une entrevue, mais ça peut être un tournoi de façon générale. Tu dis que t'es allé au US Open, ça peut être une couverture US Open. Est-ce qu'il y a un événement dans ta couverture tennistique qui t'a marqué plus qu'un autre?
Mais le plus récent ou la plus récente histoire de tennis que jamais j'ai oublié, c'est Indian Wells 2020, le tournoi qui a été annulé. Nous, on allait là pour voir les Canadiens, pour préparer les Olympiques. On devait tourner des reportages avant les Jeux, puis c'est la dernière fois qu'on pouvait voir tout le monde en même temps, au même moment. Donc, on part le dimanche matin de Montréal, on va à Los Angeles, on arrive là le dimanche soir à Indian Wells, on va s'accréditer, on fait le tour, on croise Valérie Tétrault qui prépare des trucs là-bas aussi. Puis le soir, on s'installe pour souper. Puis là, c'est mon affectateur de Montréal qui m'appelle et dit « Ouais, le tournoi est annulé. » Donc, on avait traversé l'Amérique au complet pour aller couvrir le tournoi, couvrir les Canadiens. Puis le soir même, on nous appelle, on nous dit que c'est annulé. Donc là, je me mets sur le téléphone, j'appelle Sylvain Bruno, il est au restaurant avec Bianca. Donc, on va le rejoindre là-bas, faire une entrevue rapide. Puis c'est le début de la COVID, on savait pas ce qui allait se passer. Puis tout le monde est un peu sous le choc. Donc ça, je m'en souviens toute ma vie. Puis le lendemain, puis le surlendemain, on avait pu faire nos entrevues préparatoires aux Olympiques finalement. Ça a donné un documentaire qu'on a sorti plus tard que prévu, mais on a au moins pu voir les athlètes. Donc ça, c'est un souvenir qui est marquant avec pas de tennis, mais avec du tennis, bien, c'est sûr qu'en 2019, j'ai eu la chance de vivre deux grands événements. Le US Open avec Bianca Andreescu, la Coupe Rogers de Toronto avec elle également, puis surtout la Coupe Davis à Madrid avec l'équipe canadienne. On était là parce qu'on devait aller ensuite à Monaco voir Félix pour un documentaire, puis la semaine, c'est pas passé comme on pensait du tout. Les Canadiens gagnaient encore. Il y a des belles images dont je vais me souvenir souvent parce que de voir l'esprit d'équipe des Canadiens, de voir Vachek, de voir Dennis, Félix était blessé quand même et qui était là, Brandon Schnur, Frank Dancevic, de les voir au bout du monde marquer l'imaginaire comme ça, c'est des bons souvenirs que je vais garder super longtemps, mais c'est sûr que rien va battre la finale du US Open de Bianca contre Serena Williams. Puis je me vois encore, j'étais en haut complètement des gradins, puis le match est terminé, je pense, vers 17h55-56, puis là, on voulait absolument que je sois au téléjournal de 6 heures. Donc, j'avais vu la fin du match. J'avais couru carrément en bas du stade. J'avais sorti pour aller voir ce qui se passait. Puis, je regardais et j'écoutais le discours de Bianca distraitement dans la télévision du Pro Shop à côté ou au magasin de souvenirs. Donc, j'avais pu écouter ce qu'elle avait dit rapidement. Puis ensuite, en autre, j'en avais fait état. Puis, ça a été une journée complètement folle qui a commencé, je pense, à 19h le matin. Puis, ça s'est terminé à 23h. Puis, on n'a pas arrêté, mais ça, de vivre ça à vitesse grand V, c'est, comme journaliste, c'est assez grisant. Puis j'avais vu après Lou Garfiga qui nous avait dit aujourd'hui, c'est une passation des pouvoirs. Avant, c'était Serena, aujourd'hui, c'est Bianca. Bon, c'est une prédiction qui était audacieuse, qui reste encore à être confirmée, mais ce jour-là, vraiment, c'est là que je voulais être. Et puis j'ai eu la chance de vivre ça avec elle et avec son camp. Donc, ça a été deux belles semaines de tennis à New York.
Le plus grand moment de l'histoire du tennis canadien, là, ça c'est sans aucun doute homme-femme confondu. Antoine, athlète la plus sympathique dans le monde du tennis, évidemment, que tu as eu l'occasion d'interviewer?
Il y en a plusieurs. Félix, honnêtement, il est extrêmement sympathique. Ce qu'il montre, c'est vrai. C'est agréable de lui parler. Roger Federer est très classe. Je me souviens qu'en 2019, à Miami, je lui avais parlé, puis j'ai demandé en français des commentaires sur Félix, puis il avait été hyper élogieux. Donc, le rencontrer, lui, c'est toujours un petit peu, pas stressant, mais on ne veut pas rater notre coup, puis il est toujours très sympathique. Nadal est toujours très, très vrai. Lorsqu'il n'aime pas ta question, ben, tu le sens assez bien, mais c'est un gars qui est extrêmement respectueux. Djokovic, je sais qu'il est assez polarisant. Mais à Tokyo, il était super gentil. Bon, quand il gagnait, quand il perdait, il n'est pas passé à l'entrevue, donc c'est plus facile dans ce cas-là. Sinon, j'essaie de penser au cours des années. J'ai toujours beaucoup aimé Andy Murray aussi, sa répartie en points de presse. Chez les femmes, c'est drôle, on disait qu'on. Bon, Bianca a toujours été super gentille aussi, et c'est pas de problème là-dedans. Parmi les grandes vedettes, Serena Williams en point de presse, ça peut être intimidant pour un journaliste lorsqu'elle n'aime pas votre question. Là, ça, c'est. Ça vous fait sentir aussi assez rapidement. Est-ce qu'il y a une entrevue qui m'a marqué? J'essaie de voir. Parce que c'est souvent plus des points de presse qu'autre chose, donc on n'a pas un grand accès aux joueurs et aux joueuses, mais Donc, une entrevue qui m'a marqué, c'est quand Bianca a gagné Indian Wells, moi, j'attendais à Miami 2 jours après, une entrevue qui était bookée depuis des semaines à l'avance, mais on ne savait pas qu'elle allait gagner Indian Wells. Donc, on l'a eu à un moment où elle était vraiment un peu dans les nuages encore. Puis, lorsqu'elle nous avait vus, on se connaissait un petit peu, lorsqu'elle nous avait vus à l'hôtel à Miami pour l'entrevue, elle était vraiment très heureuse et contente de rencontrer une télévision canadienne. Donc, ça, c'est un beau moment. Puis, l'agent nous avait dit, tu as 10 minutes, pas plus. Donc, là, OK, je comprends. Puis, moi, je m'étais chronométré et tout. Puis, lorsqu'on a fini 10 minutes, ben c'est Bianca qui ne voulait pas décoller. Elle voulait continuer à nous jaser. Puis, je pense qu'elle ne réalisait pas encore l'ampleur de sa victoire. Puis, ça a été un beau moment de voir l'agent qui s'impatientait en arrière. Puis, Bianca qui ne voulait pas décoller. Puis, moi, je disais à l'agent, mais regarde, moi, mes questions sont finies. On ne roule plus. On est juste là. Puis, on range le matériel. Puis, elle restait de discuter avec nous. Donc, ça a été des bons moments à vivre, assurément.
Puis, je ne vais pas te mettre sur le spot, là, mais y a-t-il un athlète où ça a été plus compliqué, moins plaisant, disons?
Pas vraiment. Ben, je sais que Sloane Stephens n'avait pas aimé une de mes questions à Montréal il y a une couple d'années, puis elle me l'avait dit assez clairement parce que. Eugénie Bouchard n'avait pas des bons moments à ce moment-là, puis elle jouait en double avec Sloane Stephens, puis j'avais voulu demander un peu qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet d'Eugénie en ce moment, comme qu'est-ce qui te fait croire à elle, puis un truc, puis je sais pas si elle a pris comme une critique d'Eugénie ou je sais pas trop, mais disons qu'elle avait été assez, je me souviens pas ce qu'elle avait dit précisément, mais elle n'avait pas été très, très cordiale dans sa réponse, là. Donc ça, c'est, j'avais pas été impressionné, mais vous savez, tu sais, j'ai appris à pas le prendre personnel avec les athlètes, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, on ne sait pas ce qui se passe juste avant, juste après. Des fois, la barrière de la langue fait aussi en question que la question n'est pas aussi précise qu'on le voudrait. Donc, des fois, ça, c'est. J'ai tendance à donner un break, entre guillemets, aux athlètes parce que ça, des fois, c'est l'exercice médiatique ne doit pas être vraiment intéressant à faire. Donc, je n'ai pas de mauvaises expériences. À Tokyo, il n'y a personne qui a été déplaisant. Donc, non, généralement, ça se passe assez bien, là.
Si tu veux, je peux te raconter une de mes anecdotes à moi.
Ouais,
Tu
vas-y.
n'étais pas là dans la salle de presse, mais une année, je sais pas si tu viens, mais une année, Djokovic dansait après chaque match à Montréal et un peu partout dans le monde sur la chanson Get Lucky, après ses victoires de Daft Punk. Et là, c'est un match, je pense, de premier tour là, contre un joueur qui n'était pas très bien classé. Puis il l'a battu en 2 sets sans rien de trop compliqué. Et il fait sa petite danse après. Mais le match a fini vraiment tard parce que probablement que le match d'avant avait été plus long. Et puis, bon, en conférence de presse, personne pose une question. Fait que là, je vais pour poser ma question. Puis je dis à Novak avec un sourire, tu sais, parle-nous de ton match. Would you say that you got lucky? Tu sais, avec un grand sourire. Et là, il m'a dévisagé en voulant dire, mais t'as-tu vu le match? Tu sais, il n'avait pas compris la joke. Écoute, il m'a dévisagé pendant 5 secondes, ça m'a paru 8 heures. Et jusqu'à ce qu'une autre journaliste en arrière fait Get Lucky Like the Song, puis là, il a fait, Puis là, il a répondu comme sommairement, mais écoute, c'est ça. Je me suis fait dévisager par Novak Djokovic qui. Puis moi, j'étais sûr qu'il allait trouver ça drôle. C'est un comique, Novak, tu sais. Mais il l'avait pas compris. Fait que voilà, moi, je me suis fait dévisager par Novak.
Mais il y a une fois aussi, j'ai un bon souvenir avec Federer à Montréal. Les gens ne connaissent pas ça, mais entre le stade et la galerie de presse, il y a une petite passerelle où on passe. Puis souvent, lorsqu'on est sur un deadline, on passe en courant. Puis à un moment donné, je me souviens, je courais sans trop regarder, j'ouvre la porte, puis je ramasse presque Federer, là. La porte, là, c'est mieux à ça d'y rentrer dans la face. Puis là, je m'étais excusé, puis il avait été d'une gentillesse. Il avait dit, regarde, c'est pas grave, comme je comprends que t'es sur un deadline. Puis, il avait été super gentil. Fait que, ça avait été impressionné de voir que. Bon, même les plus grands peuvent avoir un peu une conscience de ce qu'on peut faire comme travail, mais disons qu'avoir blessé Federer puis qu'il porte d'en face d'un journaliste de Radio-Canada, donc j'aurais pas été très, très fier de ça.
Ça a été un moment marquant de ta carrière, ça, c'est
Ouais,
sûr.
pour les mauvaises raisons.
Ouais, exact. Hey, Antoine, je te laisse aller. Tu as été super. Merci d'être venu nous parler de ce sport de raquette. D'ailleurs, sport de raquette, toi, tu es un spécialiste de sport de raquette. Le monde ne le savent peut-être pas, mais tu as été un grand joueur de badminton à ton époque jeune adulte, si je me trompe pas.
Ouais, ben, grand joueur. Disons, je me suis rendu dans les rangs universitaires de badminton. Puis j'ai eu la chance même d'aller voir 2 jours à Tokyo de badminton. Donc, j'ai pu voir Michelle Lee, la Canadienne, jouer. Donc, j'ai eu 2 jours entre mes affectations de tennis, j'ai eu 2 affectations de badminton et j'étais bien content. Ça fait bien fait rire mes amis d'enfance qui savent que c'est un sport que j'aime autant, sinon plus, que le tennis.
Merci beaucoup pour ta participation, Antoine, et tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir. Salut.
Bye bye.